France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Le plateau des Glières, Isieux, aujourd'hui Vassieux en Vercors, avant Marseille ou encore la Normandie, Emmanuel Macron est lancé dans un périple mémoriel, celui des 80 ans de la libération de notre pays. Pour lui, c'est une façon d'imposer un récit national et pour nous, de nous interroger sur la mémoire, ce fameux devoir de mémoire. Il y a les livres, les cours d'histoire et les commémorations, mais comment la transmettre, cette mémoire, de manière efficace, alors que les derniers grands témoins de la Seconde Guerre mondiale sont en train de disparaître alors qu'on vit de plus en plus dans l'injonction du présent. Comment sensibiliser les plus jeunes, les aider aussi à devenir des citoyens, à se bâtir un esprit critique. Si vous êtes parents, grands-parents, professeurs, si vous êtes investis dans une association, racontez-nous comment vous faites passer le message. Et d'ailleurs, peut-on le faire passer de la même manière sur certains conflits dont les douleurs sont encore vives? Je pense à la guerre d'Algérie par exemple. Vous l'avez compris, on regarde l'histoire avec un grand H ce soir, en comptant sur vos témoignages de passeurs d'histoire.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Marseille, nous vous écoutons, on entame l'émission avec vous.
Voilà, alors moi, la question m'a posée, moi je pense qu'il faut revenir directement à l'histoire. Si on ne raconte pas l'histoire, les gens ne vont pas comprendre. Comment des Français, des petits Français peuvent-ils comprendre qu'il y avait des miliciens à Vassieux et au plateau des Glières qui ont tué des Français si on ne raconte pas l'origine de l'histoire. Mmh. L'histoire, voilà. Comment peut-on expliquer la montée du nazisme si on n'explique pas pourquoi les spartakistes ont fait capituler les Allemands à 50 km de Paris, et ensuite, je veux dire, la crise économique qui s'est passée en Allemagne pendant les 10 ou 15 années qui ont suivi, qui ont amené le nazisme, pourquoi la France a capitulé en 40, et pourquoi, l'extrême droite est montée en France. Donc, ça ne fait pas tout ça. La guerre d'Algérie, c'est la même chose, avec les massacres d'un côté et de l'autre. On ne peut pas leur expliquer ce qui s'est passé si on n'explique pas tout ça aux enfants.
Mais Marc, donc, vous l'expliquez, vous, à vos petits-enfants?
Alors, à mes petits-enfants, aux petits-neveux, et comme j'aime beaucoup ça, en général, on dit, tiens, va voir Marc, il va t'expliquer.
Et alors Marc, quel mot il utilise pour expliquer tout ça? Parce que parfois, c'est complexe.
Oui, c'est complexe, mais bon, il faut être simple. Il faut être simple, expliquer ce qui s'est passé. Comment les gens ont changé d'avis, quelles ont été les crises économiques qui ont fait que des gens ont cherché à prendre le pouvoir parce qu'ils pensaient qu'effectivement, avec un régime autoritaire, qu'il soit de gauche ou de droite d'ailleurs, ça change rien, on allait changer les choses et on a monté les uns contre les autres à ce moment-là.
Merci pour votre témoignage, Marc. Pour en parler avec vous ce soir, Christine Guimonet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure justement d'histoire-géographie dans un lycée de Pontoise dans le Val-d'Oise et secrétaire générale aussi de l'association des profs d'histoire-géo. Et nous sommes en ligne avec Sébastien Ledoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, maître de conférence à l'université de Picardie, Jules Verne, à Amiens. Marc disait à l'instant, il faut revenir à l'histoire, il faut la raconter, Christine Guimonet.
Mais il a raison, et c'est ce que nous faisons avec tous nos collègues dans nos classes, avec nos élèves de 3e et au lycée, avec nos élèves de terminale, puisque là on parle d'histoire contemporaine.
Et comment le fait-on? Parce qu'on ne s'adresse pas forcément aux enfants de la même manière, ça dépend de leur âge. Et j'imagine que vous ne faites pas un cours magistral pour que ça passe bien, ce message-là.
Alors c'est vrai qu'on enseigne différemment aujourd'hui par rapport à la période où Sébastien et moi étions élèves. D'une part parce que les méthodes pédagogiques ont évolué et également parce qu'il y a tout un pan du savoir historiographique qui s'est fortement développé. Il y a eu des ouvrages rédigés par des chercheurs qui nous ont permis de savoir beaucoup plus de choses sur l'histoire des guerres, parce qu'en fait on pense souvent qu'on sait tout sur l'histoire des guerres et chaque année il y a un livre important qui paraît et qui nous éclaire. Ce qui est important, c'est de faire comprendre aux élèves que l'histoire, c'est un emboîtement de processus. Il faut du temps pour pouvoir décrypter, pour pouvoir contextualiser, pour pouvoir analyser. Leur faire comprendre aussi que des témoins, des victimes de la guerre, qu'ils peuvent entendre ou lire, il y a 80 ans, c'était des gens qui avaient leur âge. Donc ce détail-là, ça peut aussi leur faire comprendre une forme de proximité, d'imaginer que, par exemple, Robert Birenbaum, qui était dans les FTP, ou Simone Veil, lorsqu'elle a été déportée, ou encore Daniel Cordier, c'était des très jeunes gens.
En fait, il faut qu'il y ait une identification possible pour les adolescents.
Oui, mais sans qu'il y ait ce qu'on va appeler une transmission d'expérience, parce que les témoins de la guerre, ceux qui ont agi, les acteurs, ils vont transmettre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait. Donc, ils vont donner un savoir qui est complémentaire de ce qu'on fait en classe. Mais ça peut pas être une transmission d'expérience, comme Simone Veil le disait très bien, parce que une expérience, c'est quelque chose qu'on a vécu soi-même, qu'on a traversé, qui parfois vous a marqué dans votre chair, et qu'on ne peut pas diffuser aux élèves qui ne sont pas à la même place.
Oui, mais tout de même, quand il y a un grand témoin comme ça, un grand résistant ou quelqu'un qui a subi des atrocités de la Shoah, qui a rescapé évidemment, qui intervient en classe, il se passe quelque chose, de plus.
Oui, il se passe quelque chose, parce qu'en fait, c'est l'histoire qui entre dans la classe et qui sort des livres. C'est une histoire vivante, parce que chaque témoin est une archive en tant que telle. Et des élèves qui ont eu la chance de rencontrer Lucie Aubrac, Simone Veil, Ginette Colinca, Daniel Cordier aussi, ou Marie-Josée Chambard-Delove, ça les a marqués, durablement.
Sébastien Ledoux, revenir à l'histoire, qu'est-ce que vous en dites, vous ?
On est évidemment toujours dans cette intention de revenir à l'histoire. Je pense que ce qui est important dans le témoignage qu'on a entendu, c'est la question de la médiation. Par exemple, là, c'est un grand-père qui transmet une histoire à ses petits-enfants. Et s'agissant justement des rapports histoire-mémoire, ce qu'on constate, c'est la multiplication des médiations, en fait. Depuis pas mal de décennies maintenant, il y a de plus en plus d'instruments de médiation pour justement transmettre.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ?
Alors concrètement, la médiation, sont des films, ce sont des bandes dessinées. D'accord. Je crois qu'on va peut-être en parler tout à l'heure. Donc il y a tout ce qui est médiation culturelle. Ça passe par des pièces de théâtre, ça passe par les témoins, on vient d'en parler. C'est-à-dire que finalement, et donc ça passe par la famille, il y a de la transmission familiale, il y a une approche du passé qui peut être suggérée, suscitée et éveillée au sein des familles. Je renvoie à un très beau livre de Samia Ferrat qui a fait toute une étude pendant 10 ans sur le rapport de la transmission de l'histoire de Taïwan au sein des familles, qui montre très bien ça. Ça peut être déterminant, les transmissions familiales pour les jeunes. Donc, il n'y a pas que l'école, si je puis dire, en fait. C'est pas qu'il y a de moins en moins l'école, mais disons que les médiations se sont diffusées, se sont multipliées, se sont élargies, jusqu'à Internet, bien sûr, aujourd'hui. La question d'Internet et des réseaux sociaux, ça peut aussi passer par là. Il faut penser aux lieux de mémoire, à tout ce qui est visite des sites mémoriels, bien sûr, et là aussi, ça s'est multiplié. Et puis, il y a les commémorations, puisque c'est aujourd'hui l'objet. Donc, il y a tout ce qui concerne la question des commémorations. Et là, on est plus dans des médiations politiques, si je puis dire. Voilà.
On y viendra.
On est vraiment sur un spectre très large.
On y viendra tout à l'heure. Et bien, justement, on a Gérard qui nous appelle de l'Ain. Bonjour, Gérard.
Oui, bonjour.
Alors, vous, qu'est-ce que vous faites ? Expliquez-nous.
Moi, je suis metteur en scène et comédien professionnel, et dans l'Ain, pour un événement, on avait été contacté par le Musée de la Résistance de l'Ain pour tout un autre projet. Je suis tombé sur un témoignage, le verbatim d'un témoignage de Rose Deville, qui est une personne d'ici, de l'Ain, qui est décédée, qui témoignait pour des jeunes élèves qui allaient partir visiter les camps de concentration avec leur professeur d'histoire. Et en fait, on a ce témoignage était vraiment extraordinaire. Enfin, il était tellement bien fait, il m'a particulièrement touché. Et en fait, on a mis sur scène ce témoignage. Et ça fait déjà maintenant 5 ans, on a joué plus d'une centaine de fois. Et on se rend compte que par rapport à l'impact avec les élèves, c'est absolument évident. Beaucoup de professeurs d'histoire nous font revenir d'année en année.
Comment vous expliquez cette immédiateté, justement, ce contact si simple ?
Alors d'abord, c'est la qualité du témoignage de Rose.
Oui.
C'est sa personne, c'est son travail, c'est sa décision. Elle a témoigné tellement et tellement de fois, plus de 300 fois, donc elle sait comment raconter, elle fait attention de pas aller trop loin dans l'émotion.
Oui.
Et puis c'est quelqu'un de tout, c'est Madame Londa. Voilà, oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans la mémoire, pour la mémoire, pour la défense de tous les déportés. Mmh. Mmh. Mais c'est Mamie Rose.
C'est Mamie Rose. C'est très intéressant ce que vous dites, Gérard. C'est Mamie Rose, Christine Guimonet. On en revient à cette identification, en fait. À cette proximité nécessaire pour bien faire passer le message. Enfin, ça aide.
Oui, ça aide. Et lorsqu'on fait intervenir un témoin dans une salle de classe, il faut toujours que ce soit très bien préparé. Il y a du travail en amont. Il y a la séance donc de rencontre avec les élèves. Mmh. Ensuite, à la fin de la séance, on s'aperçoit souvent que les élèves qui pouvaient être un petit peu en retrait, qui avaient des difficultés à poser des questions parce qu'ils ont peur de choquer, de poser des questions dérangeantes, de blesser, ils descendent dans l'amphi où ils viennent voir la personne et oui. Ils ont un petit échange.
Un dialogue en direct, par exemple, qui va les marquer.
Oui, ça on le voit très bien lorsque, par exemple, on a un survivant des camps et ils veulent voir le tatouage, par exemple. Et ils font ça avec beaucoup de délicatesse parce qu'ils ne veulent pas être intrusifs et être dans le voyeurisme.
Bien sûr. Et puis, il y a une autre façon hein, de cultiver cette mémoire, c'est de se rendre dans des lieux où il s'est passé quelque chose. Bonjour, bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Paris, vous avez 13 ans Sarah, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
On peut se tutoyer ?
Oui, on peut se tutoyer.
Bon d'accord, super. Raconte-moi ce que tu as fait le week-end de Pâques.
Avec ma famille, on est allé en Normandie pour aller visiter des plages et certains camps de débarquement. Voilà. Mmh.
Les plages du débarquement, oui.
Oui, et certains musées, pardon, du débarquement.
Oui.
Et on a aussi visité un cimetière. Et du coup, ça, c'est des moyens de se souvenir de ce qui s'est passé de la Seconde Guerre mondiale.
Ça t'a marqué ?
Oui, c'était très touchant et ça m'a beaucoup intéressée.
C'était la première fois que tu entendais parler du débarquement, concrètement ?
Oui, c'était la première fois. J'avais parfois entendu, mais sans plus.
Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Parce que quand on se retrouve à 13 ans dans un cimetière militaire, et il y en a beaucoup hein, sur les plages de Normandie, c'est quand même assez impressionnant.
Ouais, c'était impressionnant. Enfin, voilà, j'étais un peu perdue.
En tout cas, tu as l'impression que c'est un souvenir que tu garderas pour toujours, finalement ?
Ouais, ça m'a marqué. Je me souviendrai pour toujours.
Et que tu as pris un peu la mesure de ce qui avait pu se passer à cet endroit-là ?
Ouais.
Eh ben merci d'avoir témoigné, Sarah. Christine Guimonet, ce sont des choses qu'on peut faire tout simplement en famille aussi. Hein.
Oui, en famille, on peut le faire aussi avec une classe, mais le travail qu'on peut faire... Le travail, c'est vrai que c'est pas tout à fait le mot qu'on devrait utiliser, mais ce qu'on peut faire en famille, emmener les enfants dans des lieux d'histoire qui ensuite deviennent des lieux de mémoire, c'est important parce que ça peut permettre aussi un dialogue à l'intérieur de la famille, un échange, une discussion, parce que ce qui fonctionne bien aussi en classe, c'est l'enquête familiale et puis ce que nous appelons la micro-histoire, c'est-à-dire essayer de comprendre lorsqu'on est dans un collège, dans un lycée, d'un quartier, d'une ville, d'un département, pour avoir une vision de la guerre à différentes échelles. Qu'est-ce qui s'est passé à l'endroit où nous étudions, 80 ans auparavant ? Donc on va travailler avec des archives, on va essayer de rechercher ce qui a pu se passer, est-ce qu'il y a eu l'occupation militaire, concrètement, est-ce qu'il y avait des réseaux de résistance, est-ce qu'il y a eu un camp d'internement à proximité, est-ce qu'il y a eu des rafles et des populations juives arrêtées, est-ce qu'il y a eu des réseaux de sauvetage. Donc tout ce tricotage, ça permet de travailler d'une façon un petit peu différente. Et le travail en famille, le travail sur l'histoire familiale, ça permet aussi aux élèves de se rendre compte que en tant qu'individu, leurs parents, leurs grands-parents sont dans l'histoire, font partie de l'histoire et la font.
Absolument. Sébastien Ledoux, transmettre l'histoire, c'est transmettre des histoires.
Oui, tout à fait. Je rebondis sur le témoignage qu'on vient d'entendre, parce que il y a quelques enquêtes quand même, quelques études qui ont été qui ont été faites, des études qui ont été faites sur la réception par les jeunes, justement, des lieux de mémoire, des témoignages. Ce qui revient le plus souvent, c'est la question de l'authenticité. En fait, c'est un vrai levier pédagogique, c'est-à-dire que les jeunes sont extrêmement sensibles à cette dimension-là du lieu, en fait, du lieu dont justement Christine en parlait, d'amener des élèves sur un lieu où il s'est passé quelque chose, et là on va matérialiser le passé. Donc c'est vraiment, encore une fois, la question de la médiation, on va matérialiser le passé, et ces enquêtes montrent qu'effectivement il y a une réception assez forte, maintenant qui n'est pas forcément suffisante si on veut y ajouter, je dirais, un message, donc autour de la paix, la défense de la paix, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, des choses comme ça. Et donc c'est là où il y a un travail de mémoire, c'est là où justement des enseignants peuvent s'emparer de ça. Tout comme, en fait, avec les témoins ne suffisent pas. Et donc, Christine en parlait tout à l'heure, il faut préparer, il faut faire un travail de préparation auparavant, contextualiser. La parole seule du témoin ne suffit pas. Mais effectivement, il y a un levier pédagogique considérable en tant qu'incarnation de l'histoire. Avec les témoins, c'est très clair.
Que signifie... Oui, pardon, je vous ai coupé, Christine Guimonnet.
Je réfléchissais là au témoignage de Sarah. Et c'est vrai que... Dans les cimetières où elle s'est rendue, c'est là qu'on peut voir à la fois l'immensité de l'espace et puis la saignée démographique provoquée par la guerre, parce que ce soit à Colville ou que ce soit au cimetière de Lacambe, lorsqu'on observe les noms et puis les dates de naissance des soldats qui sont tombés, on se rend compte que certains étaient extrêmement jeunes.
Sébastien Ledoux, que signifie l'expression « devoir de mémoire » ?
Ouh là là, j'en ai fait ma thèse pendant 6 ans.
C'est bien pour ça que je vous pose la question, alors on va faire un petit peu plus court, mais je suis sûre que vous allez bien synthétiser.
Bien sûr. En fait, le devoir de mémoire, quand il émerge dans les années 80, fin 80 et début 90 pour être précis, en France, signifie une obligation morale de se souvenir de certains faits du passé, et ce sont plutôt des passés criminels. Et donc, on est face à une dette envers les morts de violence, notamment le génocide des Juifs, et puis ensuite, on va évoquer le devoir de mémoire à travers les morts liées à l'esclavage, même les morts liées à la Première Guerre mondiale, pendant les années 1990, voilà. Donc, l'idée, en fait, du devoir de mémoire au départ, c'est rendre justice à ceux qui ne sont plus là, pour paraphraser Paul Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur qui a beaucoup travaillé sur la mémoire. Qui a beaucoup travaillé là-dessus. Rendre justice à ceux qui ne sont plus là. Et effectivement, dans un contexte mémoriel particulier, sur la reconnaissance nécessaire de la complicité de l'État français dans les crimes antisémites, dans les persécutions antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là vraiment que le terme s'est cristallisé. Donc on comprend en fait ce que ça a voulu dire. C'était vraiment reconnaître déjà, les torts de l'État français, de rendre hommage et rendre justice aux victimes de persécutions antisémites. Voilà.
Donc on est passé des vainqueurs et de la figure centrale du héros, finalement, si je vous suis, plutôt à celle des victimes.
Alors tout à fait, vous avez tout à fait raison. En fait, le devoir de mémoire, cette expression qui s'est imposée au début des années 90 et pendant toute la décennie et un peu après, signifie et signale justement cette mutation de ce qu'on appelle le récit national. C'est la façon dont on raconte l'histoire nationale, en fait, le récit national. Et là, on a vraiment un virage très important. Depuis, en gros, là aussi, je vais résumer, la fin du XVIIIe siècle, on a vraiment un récit qui porte en avant les héros, et notamment les héros qui se sont sacrifiés au combat. Donc, c'est pour ça qu'on a des généraux, on a des hommages à des militaires, on va avoir les hommages aux poilus après la Première Guerre mondiale. Et donc, dans cette idée qu'il faut rendre, pour que la nation puisse subsister, il faut lui rendre aussi hommage à ceux qui se sont battus pour elle. Donc, on a des figures héroïques, essentiellement, et c'est vrai, essentiellement masculines, pour le coup. Et puis, dans les années 80-90, ce sont des évolutions sociales, en fait, qui se font et qui prêtent attention de plus en plus à des victimes de violence, à des victimes de violence de masse. Et donc, on a parlé du génocide des Juifs, mais aussi des esclaves, mais aussi d'autres personnes liées à la période coloniale, où là, on a une bifurcation des hommages, et on a des politiques mémorielles qui vont se faire au nom justement de l'hommage aux victimes et de la réparation. On est vraiment sur la question de la réparation due aux victimes et aux descendants des victimes. Voilà comment, se fait l'évolution. Et c'est pas une évolution qui est circonscrite à la France. C'est vraiment une évolution.
C'est mondial. Très intéressant.
C'est, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de l'Hexagone aussi. On se rend compte des mêmes.
Donc c'est pas seulement le récit. C'est pas seulement le récit national en fait.
Ce sont les. Alors c'est la question des récits nationaux dans différents pays qui effectivement se sont plutôt polarisés autour de l'hommage à des victimes. En Allemagne, c'est très clair, par exemple. Hein, voilà, la Shoah dans les années 90 va jouer un rôle vraiment essentiel dans la réunification allemande, par exemple. Hein, la réunification allemande va se faire au nom justement des principes dits des droits de l'homme et notamment au nom de la reconnaissance de la responsabilité de l'Allemagne dans le génocide des Juifs.
Et pourquoi est-ce mondial, Sébastien Ledoux ?
On est dans les... Alors, pensez à tout ce qui est Commission Vérité-Réconciliation qui commence en Argentine en 1984, qui va se diffuser ensuite dans les pays d'Amérique latine. Donc, on a des effets post-dictature, je dirais. Hein. Donc, où on va considérer que finalement, pour retisser le lien social, il faut absolument revenir sur ce passé criminel et pouvoir évoquer cela. Et donc, pouvoir rendre hommage aux criminels. Donc, il y a cette nouveau, moi, ce que j'appelle un nouveau contrat narratif. Hein. Il y a un nouveau contrat narratif des États qui dit, voilà, pour reconstruire une société, il faut rendre hommage aux victimes des violences. Et c'est notamment des civils. Hein. Donc, on n'est plus vraiment dans une mémoire militaire. On est aussi dans une mémoire qui inscrit les civils comme des acteurs à qui on rend hommage. Donc ça, c'est vraiment des transformations, je dirais, sociales très importantes, puisque effectivement, elles sont mondiales. Alors après, ça touche pas tout le monde. Vous avez des pays aujourd'hui qui sont absolument opposés à ça et qui sont plutôt encore...
Il y a des dictatures, évidemment.
Voilà, type glorification, glorification des hommes, glorification des soldats, etc. Donc ça touche pas non plus tous les pays. Mais ça a touché, effectivement, ça a concerné en tout cas beaucoup de pays, dont la France.
Et Christine Guimonet ?
Oui, ce qui est important, c'est d'avoir un devoir et un discours de vérité, comme Sébastien Ledoux le disait. Et pour travailler là-dessus, nous avons les archives. Et pour pouvoir entraîner les élèves, on a des outils, en fait, qu'on peut mobiliser. Chaque année, on a le concours national de la résistance et de la déportation, avec un thème annuel. Donc, il y a un thème qui change chaque année.
Et là, vous êtes en train de chercher celui de cette année.
Voilà, le prochain, c'est « Libérer et refonder la France entre 1943 et 1945 ». Celui de cette année, c'était « Résister à la déportation en France et en Europe ».
D'accord.
Donc, à partir de ces thèmes-là...
Vous, tous les ans, à l'Éducation nationale, on vous demande de monter des projets autour de ça ?
Alors ça, c'est à la discrétion de chaque professeur, parce que notre liberté pédagogique est très importante, mais en fonction de la classe, des centres d'intérêt, ça peut être un levier qui est très intéressant. Ensuite, si on travaille sur la Shoah, on peut faire participer les élèves au prix Corin. On a aussi le travail sur la biographie d'un déporté avec le convoi 77. Donc on a des outils à mobiliser pour travailler avec nos élèves et la pédagogie de projet, c'est vraiment intéressant.
Alors si vous nous rejoignez en ce moment, vous venez de vous brancher sur France Inter, sachez que dans le téléphone sonne jusqu'à 20h, on se demande comment transmettre la mémoire, comment parler d'histoire aux plus jeunes, c'est de plus en plus important en ce moment. Nous sommes avec Christine Guimonet qui est professeure d'histoire-géographie dans un lycée de Pontoise et aussi avec Sébastien Ledoux qui est historien et maître de conférence à l'université de Picardie et tout de suite une note vocale, celle d'Elisabeth.
Bonjour, j'appelle de Grenoble. Lorsque mon fils était ado, il était fanat de Call of Duty, il jouait tout le temps à ça. Alors j'ai voulu lui montrer ce que c'était la vraie guerre et ainsi je l'ai emmené au cimetière américain de Draguignan où là, il a pu constater ce que c'était la guerre, surtout quand on a vu les noms, les âges des jeunes gens qui étaient tombés. Certains avaient l'âge de son cousin, donc ça l'a profondément marqué. Aujourd'hui, il a 22 ans. Le mois prochain, on va à Arlington, à Washington, D.C.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Christine Guimonet, l'âge de ces jeunes soldats, ça parle aux adolescents aujourd'hui.
Oui, et en préparant l'émission, je pensais à une citation de Jacques Decour, qui est un résistant qui a été fusillé... une semaine après Georges Politzer et Jacques Solomon, au Mont Valérien, il écrivait dans une lettre « Vous savez que je m'attendais depuis 2 mois à ce qui m'arrive ce matin. Aussi ai-je eu le temps de m'y préparer. Mais comme je n'ai pas de religion, je n'ai pas sombré dans la méditation de la mort. Je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau. La qualité du terreau dépendra de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse française en qui je mets tout mon espoir. » Et ça, ça dit beaucoup de choses sur ce que peut être la transmission.
Mmh. Sébastien Ledoux.
En fait, effectivement, la question de la transmission, c'est des paroles authentiques. Bon, vous parliez du Mont Valérien, vous avez beaucoup là aussi de scolaires qui se rendent sur ces lieux-là et qui nous permettent de comprendre bien des choses quand on est quand on se rend dans la clairière des fusillés, c'est un lieu extrêmement impressionnant. Donc, on est sur des médiations qui peuvent fonctionner à condition aussi évidemment de leur expliquer. C'est-à-dire que on est vraiment la question, puisque vous parliez de devoir de mémoire, hein, l'un des écueils de devoir de mémoire, et je crois que Christine sera d'accord avec moi justement, c'est la question du conformisme, hein, c'est la question de l'obligation, puisque je parlais d'obligation.
Bah, devoir égale donc, obligation, c'est voilà, ça le problème, exactement. Ça peut être contre-productif.
Ça peut être complètement contre-productif, parce que justement, si c'est orienté vers une sorte de conformisme, où il faudrait absolument transmettre tel ou tel passé sans forcément l'expliquer. Mais en fait, où les élèves, puisque les enquêtes parfois montrent aussi ça, c'est-à-dire que les élèves comprennent que c'est important, voilà. Mmh. Donc ils ont bien compris que c'était important de transmettre le passé, mais pourquoi et quel passé exactement, ça peut passer à l'as, si je puis me permettre. Mmh. Donc là en fait, on est vraiment dans cette nécessité de reconstruire à chaque fois une période historique, une contextualisation, des médiations, pour les intéresser, je dirais, hein, pour les motiver, les intéresser, les sensibiliser. C'est-à-dire que rien n'est gagné jamais d'avance.
Non, rien n'est gagné.
Il faut jamais se reposer sur cette question du devoir de mémoire, comme il faut jamais se reposer sur une visite d'un lieu, sur la venue d'un témoin.
Tout est
à construire à chaque fois.
En tout cas, il y a un truc qui marche très très bien en ce moment, c'est la BD. Bonsoir Laurent Muller.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. On a tenu à ce que vous puissiez témoigner dans l'émission. Vous êtes directeur des éditions des Arènes BD. C'est vous qui avez lancé la BD aux Arènes il y a une dizaine d'années. Et vous êtes parti sur l'histoire et les sciences humaines. Pourquoi ?
Parce que, en fait, quand je suis arrivé aux Arènes BD, mais ça c'est un peu ma vie, mais je suis arrivé aux Arènes BD, il n'y avait pas encore de bande dessinée. On s'est dit, comment on va faire des BD pour se différencier un peu de ce qui existe sur le marché, et on s'est dit on va prendre le biais des sciences humaines. Donc on s'est dit on va faire des sujets sciences humaines historiques sur des méta-sujets en bande dessinée. Et donc on a fait des histoires sur une histoire sur la sexualité, une histoire sur la médecine, sur le vin, enfin, multiples sujets. Et on s'est rapidement rendu compte que ça fonctionnait très bien parce que c'est des objets de vulgarisation très accessibles, et vous parliez des jeunes tout à l'heure, effectivement, et vous donner un livre, je vais vous dire, sur, par exemple, j'ai fait une histoire de l'Église catholique,
oui.
Du Vatican, vous donner un bouquin de texte de 600 pages, je pense que peu de gens vont le lire. Vous donnez une BD, ils sont une trentaine de mille à acheter le livre, à le lire. Donc parce que c'est un média qui est d'une accessibilité totale et facile, voilà.
Et c'est moins impressionnant aussi.
Oui, c'est moins impressionnant, c'est moins intimidant. Et puis malheureusement, comme les gens ont moins de temps de consacrer à la lecture, la BD facilite cet accès.
Et vous travaillez aux Arènes BD avec des historiens et des chercheurs?
Oui, on travaille sur tous les sujets, en fait. On travaille avec un historien, un journaliste, un chercheur, un scientifique. Et à chaque fois, des fois, l'historien, le scientifique s'en sort très bien tout seul pour faire un scénario, il associe un dessinateur. Mais quand c'est pas le cas, on l'associe à un scénariste.
Mmh. Donc, je rappelle, vous avez sorti récemment une BD sur Missak Manouchian.
Tout à fait.
Ou bien le bouquin sur Jérusalem, hein, de Vincent Lemire.
Exactement,
et Christophe
de Vincent
Gauthier.
Lemire, qui est historien, mais qui s'est complètement plié à l'exercice du scénario de bande dessinée. Et c'est un énorme succès. Et pour Missak Manouchian, c'est les auteurs qui m'ont contacté. On a eu l'appui du ministère des Armées. Et en plus, on a ajouté un dossier pédagogique de Denis Péchanski, des étrangers dans la résistance.
Sébastien Ledoux, on peut transmettre aussi l'histoire du présent. Je pense à Jérusalem, dont on parlait à l'instant, aussi. C'est quand même plus compliqué.
C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, mais c'est d'autant plus nécessaire, hein, évidemment, hein, d'avoir cette perspective historique qui a été offerte, en tout cas par l'intermédiaire de Vincent Lemire, sous la forme de cette bande dessinée. Je dirais que, oui, enfin, le détour par l'histoire me semble indispensable, vu la violence du conflit et les antagonismes en jeu, hein, puisque là, on est vraiment sur des questions très antagoniques. Et la bande dessinée nous aide. Hein. Enfin, si je peux juste dire un mot là-dessus, c'est vrai que c'est là, quand on étudie l'histoire de la mémoire, la bande dessinée est devenue l'un des supports majeurs pour la jeunesse. Donc la bande dessinée a investi considérablement, je dirais, le créneau mémoire et donc de l'esclavage, de la Seconde Guerre mondiale, du génocide des Arméniens, des Tutsis. Énormément en fait d'auteurs alliés à des conseils historiques se sont investis dans ces BD qui sont en fait effectivement à la fois historiques et mémoriels. Il y a un support visuel, il y a une histoire, il y a moins de texte, ça a été dit, et donc ça plaît aux jeunes. Oui.
Laurent Muller, il n'y a pas de tabou?
Moi personnellement, j'en ai pas. Mais non, il n'y a pas de sujet interdit. On fait toujours un peu attention à ce qu'on...
Après, on fait un peu attention aux illustrations aussi, quand même, j'imagine.
Aux illustrations, évidemment. On fait attention à ce qu'on dit. Tout est bien sourcé, tout est bien vérifié. Mais effectivement, non, quand on parle de massacre, j'évite de montrer des scènes de massacre. Oui. Mais c'est juste ça. Je trouve ça impudique et que on peut faire comprendre ce qui s'est passé par d'autres biais.
Autrement. Voilà. On a une question de Clervia qui nous a écrit sur l'appli France Inter. Elle demande qu'est-ce qui est enseigné sur la guerre d'Algérie actuellement. Là, je vais me tourner vers vous, Christine Guimonet. Ma famille paternelle pied-noir, j'ai passé mon bac il y a 20 ans, je n'ai souvenir que d'un tout petit paragraphe. J'avais l'impression que le gouvernement français ne voulait pas nous enseigner la vraie histoire, notre histoire à tous au final. Comment on enseigne aujourd'hui la guerre d'Algérie ?
La guerre d'Algérie est enseignée en troisième et ensuite au lycée en terminale. Et en fait, les modifications de programme ont fait que il y a certains chapitres qui ont alterné entre la classe de première et la classe de terminale en fonction de la façon dont les programmes étaient structurés. Avec les anciens programmes, il y avait en terminale une question qui était très intéressante qui s'appelait l'historien et les mémoires. Et on pouvait traiter cette question soit à partir de l'exemple des mémoires de la Seconde Guerre mondiale, soit à partir de l'exemple des mémoires de la guerre d'Algérie. Et très souvent, en classe, on se rend compte, et pour en avoir discuté avec plusieurs collègues, on avait des retours similaires, qu'en fait, les élèves avaient besoin de travailler sur les deux questions. Mmh. Parce qu'il y avait un intérêt. Et avec les nouveaux programmes, on a donc la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite la guerre d'Algérie qui sont dans le tronc commun. Et il y a, pour les élèves qui suivent la spécialité AGGSP, c'est-à-dire Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Po, un thème qui s'appelle « Faire la guerre, faire la paix ».
Oui.
Et un thème aussi sur les mémoires. Et on retrouve justement la question de la guerre d'Algérie, la question du génocide, des lieux de mémoire, et également la Shoah avec la littérature et le cinéma.
Sébastien Ledoux, est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui pour enseigner la guerre d'Algérie, en sachant que les plaies sont encore à vif entre nos deux pays ?
Alors écoutez, il y a toute une historiographie quand même depuis plus de 40 ans, hein, enfin, et notamment depuis 30 ans maintenant. Donc on a vraiment des travaux solides, de plus en plus précis, de plus en plus nombreux pour enseigner la guerre d'Algérie. Je tiens à préciser qu'en fait, c'est une guerre qui a été introduite notamment dans des programmes en 1982-83 au niveau de la troisième et du lycée parce qu'on a intégré le temps présent. Hein, c'était la question... toute la mode de l'histoire du temps présent, et donc c'était à la fois Seconde Guerre mondiale et guerre d'Algérie. Après, il y avait des jeux d'options, donc on pouvait aussi en troisième, pour les enseignants, soit enseigner la guerre de décolonisation en Inde ou soit la guerre d'Algérie. Donc effectivement, on a des élèves qui n'ont pas enseigné, quelques générations d'élèves, mais je dirais que ça s'est renforcé, donc il faut vraiment tordre le cou à cette idée qu'on n'enseignerait pas la guerre d'Algérie, même si
tout
en lycée professionnel...
Tout en sachant que les historiens sont encore en train de travailler dessus. Il nous manque encore plein d'informations, c'est ça ?
Oui, mais on a des synthèses. On a quand même vraiment des synthèses sur la guerre d'Algérie maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Et donc, on a vraiment des très bonnes synthèses, des très bons travaux d'historiennes et d'historiens français. Je dirais que d'un point de vue historiographique, la situation est là et elle est propice à l'enseignement. Oui. Après qu'il y ait des réactions d'élèves, ça c'est autre chose.
Oui, hein,
c'est évidemment,
oui.
Voilà.
Évidemment.
Il nous faut aussi du temps pour pouvoir enseigner d'une manière qui soit efficace.
Je voudrais juste qu'on prenne rapidement un dernier appel et on prend Raphaël parce qu'il attend depuis un moment. Bonsoir et merci d'avoir patienté. Vous nous appelez de Nantes. Nous vous écoutons.
Bonsoir,
Raphaël.
Merci. Bonsoir.
Bonsoir. Alors.
Je suis président d'une association qui s'appelle Raconte-leur une histoire, que j'ai créée il y a maintenant 3 ans quand j'étais en classe de première. J'étais un élève et je suis toujours passionné d'histoire. Et ce qu'on voulait faire, c'était rencontrer des personnes âgées en structure, qui étaient en... Moi, j'avais le retour de ma mère qui me disait que c'était des personnes qui étaient très isolées. Et du coup, on a voulu les rencontrer. Et c'était à la fois pour les sortir de cet isolement et à la fois pour pouvoir avoir cette transmission de la mémoire, mais qui se faisait d'un lien plus direct que ce qu'on pouvait avoir en cours d'histoire. C'est-à-dire de la personne âgée directement qui a vécu les événements aux élèves. Et l'intérêt, nous, qu'on a vu là-dedans, et je rejoins un peu vos intervenants que vous avez sur plateau, c'est que on a remarqué que c'était pas forcément les éléments les plus marquants, les plus graves, qui percutaient le plus nos bénévoles qui les rencontraient, les jeunes qui se rendaient en structure, mais les petites anecdotes du quotidien, ce qui permettait de trouver un parallèle entre les étudiants, les élèves, et les personnes âgées qui nous racontaient ce qu'elles avaient pu vivre au même âge que nous. Et c'est souvent ça qui faisait percuter les uns et les autres sur qu'est-ce que c'était la gravité de la chose et qui permettait de donner plus de résonance à la mémoire qu'elles essayaient de transmettre.
Merci pour votre témoignage, Raphaël. On y revient une fois de plus, Christine Guimonet, la proximité.
Oui, c'est important ce fil transgénérationnel.
Oui, dites-nous pourquoi.
Parce que en fonction de du moment où, où on apprend, on peut parfois se retrouver avec des espèces de vides lorsque, par exemple, on a des grands-parents qui ont vécu un moment très particulier de l'histoire et que les grands-parents sont décédés, ou alors les grands-pères qui ne parlent pas, ceux qui ont combattu pendant la guerre d'Algérie.
Souvent, ils ne racontent pas cette guerre. Donc, cette proximité est essentielle. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant.